Vous êtes sur RTL. Yves Calvi,
RTL Matin.
8h20, bonjour Hervé Lobraz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes démographe, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'un des meilleurs analystes des réalités françaises de la vie de notre pays. Vous avez récemment publié « Se sentir mal dans une France qui va bien » aux éditions de l'Aube. C'était évidemment avant la crise du coronavirus. Si on essaie de réactualiser le titre de votre livre, j'ai envie de vous demander ce matin, Hervé Lobraz, comment se sent-on dans une France qui va mal après cette crise ?
On se sent mal, mais au fond, je dirais qu'on a, pris l'habitude un petit peu en France de se sentir mal. Donc, on est peut-être plus paré que d'autres face à cette crise. Mais très clairement, quand on regarde les enquêtes européennes, au fond, les Français sont ceux qui doutent le plus de la capacité de leurs dirigeants à faire face à l'épidémie. Ce qui est étrange à nouveau, c'était d'ailleurs le sujet de mon livre, parce que dans les faits, le gouvernement a relativement bien géré cette épidémie. Il a pris un retard au début, mais quand on voit les résultats actuels, ça s'est plutôt bien passé par rapport à d'autres pays, à commencer par exemple par l'Angleterre ou les États-Unis. Mais il y a une attente en France de l'État qui est extrêmement forte. Donc il y a toujours une déception des Français par rapport à ce que fait l'État. Si vous prenez justement l'Angleterre, où la crise a été beaucoup moins bien gérée, mais les Anglais n'attendent pas grand-chose de leur État. Donc actuellement, ils sont assez contents de Boris Johnson.
Dites-moi, quand on doute de l'État, est-ce qu'on doute aussi de nous ?
Non, ça, je crois pas que ça soit très français. Je crois qu'au contraire, il y a plutôt une tendance française à la débrouille. Mais justement, l'État est là aussi pour empêcher que cette tendance à la débrouille prenne des allures trop libertaires. Et de ce point de vue-là, à nouveau, par exemple, le confinement a été vraiment bien respecté.
Je voyais cette enquête faite par un institut de sondage récemment, où en effet, les Français expliquaient qu'ils ne faisaient pas confiance à l'État pour assumer cette crise, mais ils ne faisaient pas confiance non plus à leurs congénères, c'est-à-dire que quand les Français se comparaient à leurs voisins, ils disaient « Oh là là, eux, par définition, ils porteront pas le masque, ils vont faire des conneries ». C'est étrange, ce doute perpétuel, non ?
Oui, mais justement, on l'avait déjà, je vois, quand j'ai fait mon livre, à ce moment-là, les choses allaient bien. Or, à une question qui était posée dans les eurobaromètres, c'est des enquêtes qui sont faites dans tous les 28 pays européens, à la question « Avez-vous confiance dans les autres, dans vos voisins ?», les Français étaient, parmi les Européens, ceux qui avaient le moins confiance déjà dans leurs voisins. Il y a un côté de méfiance qui est beaucoup plus ancien qu'avec l'épidémie.
Mais alors, s'il est beaucoup plus ancien, il vient d'où ?
Ah là, c'est difficile à savoir. Je crois justement qu'il vient à cette conception au fond très, très monarchique de l'État en France. Et c'est à l'État de s'en occuper, donc on va se méfier plutôt des autres s'ils cherchent à s'en occuper. Mais en même temps, c'est l'État qui bride nos libertés. Donc on a une grosse difficulté à combiner la question de la liberté et la question de l'autorité, plus que dans d'autres pays.
Quand il y a une crise de confiance, en plus d'une crise sanitaire, est-ce que d'une façon ou d'une autre, c'est un coup porté à la démocratie, selon vous, Hervé Lobraz ?
Oui, ça risque de l'être, parce que on risque de se fier à je dirais pas des remèdes miracles, mais on risque de se fier à des solutions qui apparaissent séduisantes sur le coup, mais qui peuvent se révéler dangereuses par la suite. On va en faire l'expérience dans les semaines ou les mois à venir avec les questions de traçage des contacts des personnes contaminées. C'est une question très importante, mais la manière dont ce traçage va être mis en place peut provoquer des problèmes vis-à-vis des libertés. Il y a beaucoup de débats actuellement à ce sujet. Et il y aura une tendance, on le voit aussi dans les enquêtes des Français, à accepter toute solution qui leur sera présentée comme étant bonne pour contrer l'épidémie.
Dites-moi, c'est bon pour le populisme, ça, non ?
C'est pas sûr du tout. Ah. Je pense que non. D'ailleurs, au fond, quand on regarde en Europe, curieusement d'ailleurs, vous avez raison de faire « Ah !» parce que les populistes sont plutôt en légère perte de vitesse. En Allemagne, l'AfD est en perte de vitesse. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte réussit assez bien et les populistes de Lombardie sont en perte de vitesse. Donc en France, la situation n'est pas claire, mais il n'y a pas de rebond du populisme. Non, je crois qu'au contraire, après tout, d'une certaine manière, c'est l'État qui a qui fait du populisme pour l'instant. C'est lui qui prend les choses en main. Donc les populistes qui sont pour des gouvernements forts se voient couper l'herbe sous le pied.
Alors, l'une des vertus de la crise du coronavirus, c'est aussi la mise en lumière du rôle de très nombreux métiers que l'on ne regardait pas souvent auparavant. Est-ce que c'est une ouverture d'esprit et une reconnaissance pour le long terme, selon vous? Alors, bien entendu, les soignants, mais aussi ceux qui ramassent nos poubelles, ceux qui étaient derrière les caisses de supermarchés, bref, ceux qui ont fait tourner la France au moment où on était vraiment dans un creux absolument terrible. Est-ce que vous voyez apparaître ce sentiment?
Oui, ce sentiment apparaît, mais surtout va apparaître, je pense que là on est sur un point très important, va apparaître que par rapport au fond à la manière dont on jugeait habituellement la société, on ne prenait pas en compte ou on prenait très peu en compte le risque vital. Et donc il va falloir sans doute, on va être amené à réorganiser la société pour tenir compte de ce risque. C'est très différent par exemple de la sécurité sociale quand vous avez, ou de l'assurance, quand vous avez une assurance, on vous rembourse après coup un dégât ou une maladie ou des frais. Avec le risque vital, c'est autre chose parce que ça ne sert à rien de vous rembourser quand vous êtes mort.
Oui.
Donc le fait de courir un risque de décès va amener à revaloriser tous les métiers où ce risque est couru, donc à prendre en considération une sorte de forme d'assurance où on touche au fond la prime, on touche au fond le remboursement avant même le sinistre, c'est-à-dire avant le décès. Donc là, il y a toute une réflexion qui a déjà d'ailleurs commencé avec les retraites, parce que dans le projet de retraite, si vous vous souvenez bien, c'était chaque heure travaillée donnait le même droit à retraite, mais en même temps, tout de suite, les militaires, les pompiers et les policiers se sont vus accorder des avantages justement parce qu'ils couraient un risque vital. Donc là, il va y avoir très certainement, on va repenser les modes de l'assurance sociale en fonction de cette question de risque et donc revaloriser certains métiers. D'ailleurs, vous voyez qu'on commence à le faire avec des primes pour les soignants. Et il est vraiment vraisemblable qu'on va institutionnaliser cela. D'ailleurs, c'est lié aussi à la revalorisation des métiers qui sont des métiers à risque.
Alors, les territoires, les départements ont joué un rôle majeur, ou en tout cas ont trouvé une forme d'identité dans cette crise qu'on vient de traverser. Le coronavirus a semblé parfois donner l'impression d'accélérer, je ne sais pas s'il faut dire la décentralisation, mais en tout cas de voir des pouvoirs locaux qui s'affirmaient. C'est le cas dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les maires, spontanément, pour certains d'entre eux, ont demandé l'obligation du port du masque dans la rue. Il est clair que même la personnalité du professeur Raoult à Marseille a évoqué quelque chose. On a eu l'impression de voir une sorte d'autonomie de gestion de nos régions par rapport au pouvoir centralisateur et parisien. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Mon commentaire serait plutôt à l'inverse. J'ai l'impression qu'au contraire, par exemple, l'état d'urgence sanitaire, c'est un renforcement de l'État. Même les pouvoirs locaux, regardez, quand il s'agit d'ouvrir des plages, les maires n'ont pas ce pouvoir-là. Il faut que le préfet donne l'autorisation.
Oui.
Donc, il y a eu certaines initiatives. Le seul endroit, au fond, où les pouvoirs locaux ont repris vraiment l'important, c'est dans les hôpitaux et dans le système de santé. Là, l'État a laissé les hôpitaux gérer la crise. Et là, au fond, il a eu bien raison. On a vu des formes d'organisation nouvelles de l'hôpital apparaître. Et on a vraiment vu une collaboration entre tous les personnels du système de santé. Mais au niveau des collectivités locales, non, il y a assez peu de choses. D'ailleurs, dès qu'il y a une initiative, vous parliez des masques dans le Sud, l'État est assez réticent ou il émet des réserves. Vous savez, historiquement, les épidémies ont toujours favorisé le pouvoir d'État. Ça commence au XVIIe siècle et ça n'a fait que s'amplifier.
Alors avant de nous séparer, vous qui observez les constances aussi du territoire français, le monde d'après en France, ça va ressembler au monde d'avant? Vous croyez qu'en effet on peut tirer des enseignements de cette aventure étrange que nous vivons et voir une société qui évolue?
Alors, ce que je crains, c'est que le monde d'après, on en parlera une fois que l'économie sera rétablie. Donc il y a eu ce choc épidémique, mais ce choc épidémique va sans doute être effacé par le choc économique qui va suivre pendant, au mieux, disons, pendant 6 mois, 1 an, au pire, pendant peut-être plusieurs années. Donc on verra vraiment le nouveau visage de la France apparaître une fois que l'économie se sera réadaptée. Mais à ce moment-là, au fond, l'épidémie sera pas oubliée, mais elle aura été le choc fondateur vecteur d'un très gros changement économique. Au fond, on vient d'en parler à propos de la question de tenir compte du risque dans un certain nombre de métiers. Donc, je crois que c'est trop tôt pour voir. L'épidémie ne sera pas déterminante dans un changement important de la société française. Ça va être vraiment l'adaptation à une nouvelle économie, une économie qui sera forcément différente avec les distanciations. Ceci dit, j'entendais juste avant Michel Simé, si jamais un vaccin efficace est trouvé rapidement, c'est moi qui aurais tort, c'est-à-dire qu'on retrouvera le parcours normal. Mais je suis moins optimiste que Michel Simé.
On l'a bien compris, c'est l'économie qui dictera le nouveau visage de la France. Merci beaucoup Hervé Lebras, historien démographe. Je rappelle votre livre publié récemment aux éditions de l'Aube, Se sentir mal dans une France qui va bien. Et merci à Florent Thiennot qui était à vos côtés dans le fameux camion rouge d'RTL. Bonne